Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Alors j'ai un petit problème de salle. Alors ce que je vais vous proposer, je suis Monsieur Nouzia, je suis un des cadres du SAMU. On va commencer par la visite, mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Allez, venez, monsieur.
En ce début d'année, l'Association des Amis de Radio Présence organisait 3 visites du SAMU, Service d'aide médicale d'urgence. Pour Immersion, nous avons suivi l'une d'entre elles. Le 6 février dernier, un groupe de 10 personnes, accompagné notamment par M. Nozière, l'un des cadres du SAMU, et par le Dr Vodica, médecin régulateur du SAMU, se retrouvait à Purpan, à l'entrée du pavillon Louis Laringue, du nom du fondateur du premier SAMU officiel, créé à Toulouse le 16 juillet 1968.
Le SAMU, l'idée de Louis Laringue au départ, c'est le SAMU, c'est un téléphone. Tout le monde est persuadé que le SAMU, c'est une voiture avec un gyrophare et des médecins, des infirmières à l'intérieur. Non. Le SAMU, c'est un téléphone. J'ai un problème, j'appelle. Je tombe sur un permanencier ou un assistant de régulation médicale qui collecte un certain nombre d'informations, où je suis, qui je suis, qu'est-ce que j'ai, qui passe ensuite à un médecin régulateur qui, lui, prend la décision médicale d'envoyer des moyens ou non, des moyens urgents, des moyens moins urgents. Donc ça va de l'ambulance privée à une heure jusqu'à un véhicule SMUR ou un hélicoptère sur l'instant, en fonction de la gravité. Bien évidemment, ce qui prime, c'est le motif de recours, le pourquoi on appelle, et si c'est grave ou si c'est pas grave. Et ce qui est très difficile à juger, c'est effectivement de savoir à l'appel téléphonique si c'est grave ou pas. Hein, pour que vous ayez une idée, le SAMU toulousain, c'est 600 000 appels par an. 600 000 appels par an, c'est beaucoup. Ce n'est pas 600 000 primo-appelants. On est à peu près à 450 à 480 000 primo-appelants. Mais quand je rappelle pour un dossier que j'ai déjà en cours, mon numéro s'incrémente à un dossier, il ne compte pas. C'est-à-dire que j'appelle une fois le SAMU, je leur dis « Je suis Monsieur Nouzière, j'ai mal à la tête. » Je rappelle en disant « Oui, mais ça s'aggrave, je vomis. » C'est toujours le même « 1 ». Voilà. C'est pour ça qu'il y a deux choses. Il y a les primo-appelants et il y a la quantité totale d'appels. C'est beaucoup. Et alors, le problème, c'est que c'est vraiment d'anti. On a des jours où on a un peu d'appels, des périodes de la journée ou de la nuit où on a un peu d'appels et des périodes où c'est un peu cataclysmique. Ce qui est normal, hein, quand les gens ont fini de travailler. On s'occupe plus de soi quand on a fini de bosser. Quand il pleut, on glisse plus, alors on tombe plus, etc. etc. Ensuite, si vous voulez, on a deux choses. Quand, si vous faites le 15 aujourd'hui, vous allez tomber sur un disque, une dame qui vous parle et qui vous dit « Si vous voulez, vous êtes bien au 15, c'est enregistré, parce que c'est médico-légal, on se doit d'enregistrer la conversation téléphonique. Les bandes sont de l'appel sont et font partie du dossier médical. » De là, on va vous proposer soit de parler à un médecin généraliste, soit à un médecin du 15, finalement, de l'AMU, l'aide médicale urgente. Soit vous estimez vous-même que votre demande ne relève pas de médecin d'urgence, et à ce moment-là, vous passez, on va vous passer un soir et week-end.
Alors, il nous faudrait l'équipe 3 sur la plateforme. Un premier hélico sur la station de Peyragudes, je transmets.
Ça, on vient d'envoyer un médecin, un infirmier à Peyragudes, faire du ski, en hélicoptère, parce qu'on a les moyens. Mais plaisanterie mise à part, voilà. Ça, chaque fois qu'il y a ce ding-dong en journée, c'est une équipe qui s'en va. En voiture, en hélico, etc. Donc, une fois qu'on a compris le cheminement de l'appel, reste deux choses. Le travail de l'ARM lui-même. Lui, l'assistant de régulation médicale, lui, il doit prendre où vous êtes, très en détail. Qui vous êtes, où vous êtes et ce que vous avez. Une fois qu'on a ça, grosso modo, on ne peut pas se perdre. Ensuite, en fonction de la gravité, on va l'incrémenter dans une salle d'attente téléphonique du médecin régulateur et ou du médecin superviseur qui va décider d'amener des moyens. Quand on va aller visiter le CRA, donc le centre de réception et de régulation des appels, c'est une grande pièce où vous avez des médecins, des ARM qui sont mélangés dedans. Et à côté, vous avez plusieurs choses. Vous avez le CCM même, je vais y revenir, la permanence des soins, et un îlot de supervision. Dans l'îlot de supervision, deux lignes, une ligne paramédicale devant, en front office, qui est un gestionnaire privé d'ambulance privée, un gestionnaire de moyens qui est un ARM, qui lui dit, ben, le monsieur que vous avez entendu parler tout à l'heure est le gestionnaire de moyens d'aujourd'hui, primaire, hélico, on va à tel endroit, et là, personne ne pose de questions. Le médecin superviseur qui est juste derrière lui, lui a dit, ou lui a envoyé par ordinateur, et les deux c'est mieux, qu'on a envoyé un moyen à Peyragudes de tout à l'heure. Donc, là, on a la prise de décision. Je vous montrerai où c'est, on ne peut pas y rentrer parce qu'on est nombreux, mais vous verrez. Donc vous voyez que, d'abord, j'ai tapé un code pour rentrer. Vous voyez que par les fenêtres, vous voyez qu'il y a des grands écrans avec des couleurs qui nous donnent l'activité en temps réel des services d'urgence du CHU, des services d'urgence des cliniques, nous donnent la possibilité de réception, ou pas entre guillemets, hein, dans les services de réanimation, etc. On a tout ça affiché en permanence. Et ensuite, vous voyez un tableau noir avec des grands rectangles blancs. Ça, ce sont les informations que nous allons donner à nos équipiers. Par exemple, je vous donne un exemple, le stade de Bessières, qui est une des aides pour nous. Ben, la nuit, comme il est en travaux, l'éclairage ne marche pas. Donc c'est écrit là. Comme ça, au moins, je ne peux pas envoyer un hélico la nuit, parce qu'on ne pourra pas m'éclairer. Voilà, c'est tout. J'irai le poser. S'il faut l'envoyer, je l'enverrai, mais je l'irai le poser ailleurs. Voilà. C'est les pense-bêtes qui est référent. Là, on est un peu en plein coronavirus quand même, qui nous amène un bon nombre d'appels quotidiens. Alors, c'est très variable, mais on reçoit beaucoup d'appels et où on renforce les médecins de permanence de soins parce que ben, le patient et ou l'appelant a besoin qu'on le rassure parce qu'il y a plein de questions qui se posent à eux.
Oui, il y a beaucoup d'inquiétudes.
Ah oui, il y a de l'inquiétude. Et puis, est-ce que je peux recevoir mes petits-enfants? Est-ce que je ne suis pas contagieux? Est-ce que je ne fais pas une bêtise? Est-ce que voilà? Il y a un peu cet inconscient collectif qui fait qu'on a toujours un peu peur de la contagion. Mais on parle plus de coronavirus que de grippe. Mais aujourd'hui, soyons clairs, en France, on meurt plus de la grippe que du coronavirus.
Oui.
Donc voilà, il faut des fois relativiser un petit peu les choses. Mais après, bon, c'est des informations qui nous parlent. On rentre, on jette un coup d'œil et on ressort. Ça vous va? Allez, venez. Donc, le centre d'appel, ici, tous les appels tombent sur le CRA, en permanence. Je vous parlais du CCM même, c'est ce grand bureau qui est derrière. Le médecin va réguler les bateaux. Le centre maritime, c'est ce bureau-là. La permanence de soins est ici. Et au fond, à droite, vous voyez l'îlot de supervision. On va ressortir pour discuter dehors, s'il vous plaît.
Au revoir, messieurs, dames.
Au revoir, monsieur.
Maintenant que vous avez visité, vous avez senti un peu l'ambiance. Mmh. Est-ce que vous avez des questions?
La salle du fond.
C'est l'îlot de supervision. C'est là où on prend tous les où sont prises les décisions.
Ce ne sont que des médecins, c'est ça?
Non, la partie de derrière. Au fond, la jeune dame au centre avec les deux personnes à côté, ce sont des médecins. Et devant, ce sont des ARM et ou des ARM privés, entre guillemets, qui régulent. Le monsieur qui parle, c'est le monsieur Chauve, qui était au centre, qui est le gestionnaire de moyens, qui dit, ben voilà, finalement, là, à cette heure-ci, vu l'état de la route, pour aller à tel endroit, on y va en hélicoptère. Non, vu l'état de la route, on y va en voiture, etc., etc. Ou justement, j'appelle le CTA, hein, donc le CTA, c'est les pompiers. D'accord ? Est-ce que tout le monde peut monter un étage à pied ?
Oui.
Et après, on redescendra par l'ascenseur. Mais d'ici, sinon, c'est un peu compliqué pour le récupérer. On va monter sur la DZ, vous montrer la plus belle vue de Toulouse.
Ce centre de régulation des appels, où plus d'une centaine de personnes reçoivent des coups de téléphone, évalue leur gravité et agit en conséquence. Il est ouvert et opérationnel 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. De considérables moyens humains sont nécessaires. Et tout comme le docteur Vodica, de nombreux médecins à la retraite, 41 sur 82 en ce moment, assurent leur tour de garde.
Et mais ça fait 15 ans que je travaille au SAMU, ce qu'on appelle la régulation des soins.
Pour vous, c'était une évidence, c'était l'aboutissement ou la continuité de votre activité professionnelle.
Exactement. Ouais. Et c'est l'évolution qui me plaît beaucoup vers la télémédecine.
À l'origine du SAMU, un homme et des réalités et nécessités de terrain. Nous sommes toujours avec le docteur Vodica.
Alors l'origine, c'est Louis Laringue, qui était responsable des urgences, et qui un jour, sur la route, a vu un accident très grave. Et il a réalisé qu'il ne pouvait rien faire, il était dans sa voiture, il ne pouvait rien faire. Et il a eu l'idée de transporter l'hôpital hors les murs, sur le lieu de l'accident. Et c'est de là qu'est née l'histoire, toute l'histoire.
À quel moment, ça ?
Alors, si je...
Globalement,
c'est dans les années 50-60. Hein.
Et c'est parti d'ici, de Toulouse, alors ?
Alors, c'est Toulouse qui a créé tous les SAMU de France. Hein, c'est parti de cette idée-là. Alors, Louis Laringue est parti avec une... Je crois qu'il avait une camionnette Renault ou Citroën. Il avait pris une infirmière, puis il a mis du petit matériel et tout. Et quand il y a eu un accident, il est sorti, donc pour la première fois. Mais ça a été toute une histoire, parce qu'on ne concevait pas qu'un médecin puisse sortir de l'hôpital. On faisait venir le malade ou l'accidenté, mais il n'était pas question qu'un médecin à l'époque. Mmh. Et donc il a un peu révolutionné la mentalité, l'état d'esprit hospitalière. Et à partir de là, ça s'est développé. Et à l'exemple du SAMU de Toulouse, donc, ce sont d'autres SAMU qui se sont créés dans toute la France.
Nous quittons le centre de régulation des appels où, en fonction de la gravité évaluée, les médecins écoutants peuvent envoyer l'hélicoptère ou l'ambulance. Nous arrivons sur le toit du bâtiment, dans la DZ, la drop zone, là où se posent les deux hélicoptères du SAMU de Toulouse, l'un qui vole H24 et l'autre H12.
Donc un hélicoptère du SAMU doit se poser sur la croix blanche, là-bas, dans le grand carré bleu. Et ensuite, venir se stationner à 1 mètre du sol dans les ronds jaunes. En aucun cas, l'hélicoptère part et se pose directement sur le rond jaune. Ce sont des règles fixées par la DGAC, hein, la Direction Générale.
Ces hélicos, ils nous servent à faire les primaires, comme on a dit tout à l'heure, partir au ski sur les stations. Et ils nous servent aussi à aller chercher des patients lourds, dont le plateau technique du centre hospitalier dans lequel ils sont, ne sont pas en capacité de gérer le patient. Donc, on part avec notre équipe, notre hélicoptère, on va à Castres par exemple, ou à Albi, et on ramène un patient sur le plateau technique. Donc des DZ, des drop zones, l'endroit où on pose un hélicoptère. On en a une autre à Rangueil, forcément. On a une DZ au Cèdre, et on a bien sûr la DZ Blagnac. Au pire, on pose à l'aéroport si on a un souci. Donc voilà comment ça fonctionne. Et quand on arrivera au garage en bas, vous allez voir qu'au garage, on a pas mal de voitures. Donc on a 4 véhicules légers d'intervention, avec tout le matériel de réanimation. Et là, on part avec un ambulancier, un médecin, un infirmier, un interne et un externe. En règle générale, ils sont 4 voire 5 dans la voiture. Donc on en a 4. On a la même chose en véhicule pédiatrique. Ensuite, on a 3 ambulances qu'on appelle AR pour ambulance de réanimation et une ambulance de réanimation pédiatrique qui est dédiée. Les véhicules pédiatriques sont dédiés parce que dans les sacs qui sont à l'intérieur des véhicules, le matériel est dimensionné pour l'adulte ou pour l'enfant. Et on ne peut pas, surtout que les pédiatres, quand ils sortent, ils sont avec des enfants plutôt très petits. Parce que l'enfant un peu grandé, finalement, c'est l'adulte qui peut s'en occuper dès qu'on a passé 30 ou 40 kilos. Donc voilà les missions du SAMU. Et les missions du SAMU sont surtout d'avoir une mission de service public et une obligation de moyens. Ça veut dire que quoi qu'il arrive toute l'année, on doit avoir 4 équipes, plus une équipe pédiatrique, prête à partir H24. On est toujours en capacité de faire face à ça. Donc ça veut dire que notre personnel est formé, volontaire, il en manque un, mais quelqu'un qui revient, puisqu'on ne peut pas faire appel à une aide extérieure, etc. Donc on n'est pas ici par hasard. Je pense qu'on est au SAMU par passion, par envie et par passion. Donc c'est un boulot prenant, c'est un boulot stressant, et c'est pas forcément évident d'arriver à fonctionner en permanence.
Moi, je vais juste vous demander, quel est votre parcours ? Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez passé par les urgences aussi. C'est un cheminement, il y a des choses qui sont mises en place progressivement qui font que vous êtes ici aujourd'hui ?
Alors, moi, je suis infirmier cadre de santé, de formation, et j'ai fait de l'urgence, beaucoup, 15 ans. Et après, oui, ça m'a pu arriver à être quelque chose d'évident. Pourtant, vous allez me dire, oui, mais le SAMU, c'est avant les urgences. Oui, mais je pense que c'est pour moi une continuité de parcours et de prise en charge patient. Je sais comment ça marche aux urgences, vraiment bien maintenant. Et je me dis que c'est quelque chose qu'on doit réfléchir et de faire un lien réel entre le préhospitalier et l'hospitalier, tant en termes de prise en charge patient que de prise en charge, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la catastrophe.
il faut qu'il y ait un lien entre l'extra et l'intra-hospitalier, sachant que ce sont des métiers différents.
Et est-ce que les postes tournent régulièrement ? C'est quelque chose qui use ?
Alors, autant aux urgences, le personnel paramédical, même surtout paramédical, a tendance à beaucoup tourner. Sur le SAMU, ce sont des gens qui ont fait de l'urgence, en règle générale, beaucoup d'urgences, et qui sont arrivés ici. Et non, on a ici une population qui est un peu plus âgée que les services d'urgence, parce que justement, on y trouve une certaine sérénité. Alors la sérénité, elle est dans des fois l'inconfort et dans des fois les coups de bourre, etc. Mais effectivement, on a un personnel qui là est aguerri et a trouvé un peu sa voie et a répondu. Et on a des gens qui sont, des infirmiers essentiellement, qui sont mis en urgence, mis en SAMU. Ce qui nous permet d'avoir aussi toujours du personnel formé, parce qu'on n'arrive pas infirmier de SMUR après le diplôme d'État, pas comme ça. Ça demande du temps, du cheminement, de la prise de recul aussi.
Oui, de la maturité sur, aussi. Voilà. Mmh.
Savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. C'est pareil pour les médecins. Et c'est, ça devient, la médecine d'urgence devient une spécialité, est une spécialité maintenant, elle ne l'était pas. Et on s'aperçoit bien qu'elle se professionnalise de jour en jour. Quoi.
Et ça y est, on est dans... Donc là, on est dans le garage. Vous voyez, on sort de là. Hop, je suis dans l'ambulance, je vais dans les services hospitaliers et ou les services de clinique, si effectivement le patient est atteint d'une clinique. Tous les véhicules qui sont là, vous avez l'ambulance pédiatrique dont on a parlé, les ambulances de réanimation classique, ça c'est le matériel de transport patient. Les deux véhicules qui sont là sont des véhicules qui eux partent en intervention si on a par exemple un ZF. On envoie un équipage, il y a du matos, un RBC, on va les faire ce qu'on appelle la découverte. On va aller voir ce qui se passe, on va aller compter le nombre de victimes, on ne va pas soigner. On va envoyer des gens qui ne soignent pas, qui regardent et qui disent « il y a ça, il y a ça, il y a ça, il me faut ça, ça et ça ». Tout le reste sont des camions de télécommunication, avec antenne satellitaire, etc. Vous voyez, le véhicule à l'intérieur, il est quand même très chargé. Donc on a besoin de véhicules un peu gros, ils sont tous 4x4.
Excusez-moi, on ne met pas de patients là-dedans ?
Non, on n'envoie que des moyens.
Du matériel.
Matériel et humain. C'est oui, là qu'on a les 5 personnes.
D'accord, mais on ne peut pas transporter le malade.
Les ambulances, elles sont là-bas. Soit on envoie des moyens, et c'est les pompiers ou les ambulances privées qui ramènent le patient, en fonction de où c'est, ou alors on envoie carrément une ambulance. Voilà, et qui, c'est le médecin et l'infirmier qui vont prendre le relais sanitairement au chevet du patient.
Sur place.
Sur place. Donc, voilà grosso modo notre façon de fonctionner. En gros, quand vous appelez de la maison de votre téléphone fixe, on sait où on appelle. Puisqu'on est domicilié à tel endroit. Par contre, depuis qu'on a tout ça dans les poches, depuis qu'on a le portable, j'appelle, je ne sais pas où je suis. Il y a plein de gens qui savent où ils sont. Oui. Plein. Mais je vais, en fonction de là où mon téléphone borne, on va m'amener, quand je suis frontalier, bien évidemment, on va m'amener au centre de secours le plus proche. Que je fasse le 18, le 15 ou le 17, ou le 112, je tombe dans celui où je borne. C'est-à-dire, si je suis limitrophe 82-31, si le relais est dans le 31, c'est nous qu'on appellera. Charge à nous de voir après si il faut le modifier. Mais effectivement, c'est comme ça que ça marche. On ne laisse pas, en France aujourd'hui, quelqu'un, j'allais dire, dans le besoin sanitaire. Bien évidemment, faut-il encore avoir une couverture réseau. Mais après, il y a un maillage territorial important. Le plus grand, c'est les pompiers. C'est eux qui ont le plus grand maillage territorial, il faut être clair, en secours, hein, s'entend. Mais nous sommes très souvent en renfort sur les pompiers, parce que les premiers arrivés sur les lieux, si c'est un peu loin, c'est eux, puisqu'ils habitent à côté. Nous, il faut qu'on se déplace. Après, plus le territoire est vaste et désert, plus on a du temps de transport. D'où l'utilisation des fois d'hélicoptères, j'arrive. D'où l'utilisation d'hélicoptères, des fois pour un motif de recours identique, on pourrait y aller en voiture, mais si tout est saturé et que je ne veux pas passer parce que c'est tout bouché, je vais passer par-dessus. L'hélico, c'est un moyen grave, on va dire. En gros, un patient qui part en hélicoptère, il serait plus grave. Mais des fois, c'est juste parce qu'on va mettre trop de temps pour y aller. Je vous écoute.
Vous parlez de SMUR, de SAMU, c'est la même chose?
Non, le SAMU, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'appel. C'est le téléphone, le SAMU. Le SMUR, c'est le service médical d'urgence et de réanimation, qui est le véhicule qui part avec du personnel à l'intérieur. Donc, il y a la régulation, tout le monde parle de SAMU. Mais le SAMU, c'est ici. Le SMUR, c'est ce qui s'en va. C'est la même entité.
C'est la même entité, c'est tout ça.
C'est la même entité, mais effectivement, on a déjà au téléphone les assistants de régulation médicale qui vont envoyer des moyens médicaux et paramédicaux sur le terrain. Il n'y a pas de SMUR sans SAMU. Oui, oui. Il n'y a pas de SAMU sans mur, parce que si j'ai personne à envoyer, ça sert à rien que je vous réponde au téléphone. Hein. Je raccroche, je laisse raccrocher, je dis bon, écoutez.
Mais l'appel tombe au SAMU.
Vous parliez d'équipe tout à l'heure, d'équipe, quatre équipes en permanence. Oui. Qui sont, une équipe, c'est combien de personnes?
Alors, une équipe, vous avez un ambulancier par véhicule, il conduit, et il aide aux soins, hein, mais un ambulancier, un médecin, un infirmier. Ça, c'est le minimum. On ne part pas à moins de 3 chez nous. Dans certains murs, on part à moins. Un étudiant hospitalier et un interne. Et où un étudiant, infirmier de temps en temps, etc. Certains endroits, quand la ressource est maigre, on peut avoir un infirmier, un médecin dans un véhicule.
Mais il arrive que le SAMU soit pointé du doigt. Mauvais diagnostic, prise en charge trop tardive. Monsieur Nozière.
Mais en général, le réseau d'urgence marche assez bien. Et puis, l'expérience du régulateur, c'est aussi de pondérer la demande et de bien l'évaluer. C'est-à-dire, j'ai une douleur thoracique, oui, mais est-ce qu'elle est grave? Est-ce qu'elle n'est pas grave? Est-ce qu'elle nécessite des moyens? Est-ce qu'elle ne les nécessite pas, etc. C'est tout ça qui est un art, finalement. Parce que vous êtes au téléphone et vous avez des gens qui appellent pour quelqu'un, qui sont inquiets, qui peuvent avoir peur.
C'est une sacrée responsabilité.
C'est très difficile. Vous savez, ça fait quand même plus du bruit quand on dit une bêtise
que
99,9% du temps quand on fait bien. Hein. Donc des fois, c'est un peu dur. On n'a pas à dire une bêtise, mais des fois, c'est injuste parce qu'on tourne bien tout le temps. Et de temps en temps, on coince. Celle-là, on sait nous la rappeler. Mais venir nous amener des chocolats à Noël pour nous dire qu'on travaille bien, c'est un peu plus rare. Tout le monde est capable de dire l'erreur est humaine. Mais dans nos métiers, elle est tolérée par personne. On n'est pas plus infaillible que le plombier.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a l'obligation de moyens, mais on n'a pas l'obligation de résultats. Et ça, c'est valable en général pour tout ce qui est milieu médical.
Oui. Et heureusement qu'on n'a qu'une obligation de moyens, mais encore faut-il que nos moyens soient, vous le voyez là, soient formés, efficaces, présents, etc. etc. Mmh. Mais oui, effectivement, on oublie des fois de venir nous dire qu'on a bien fait. Mais on a pas mal de retours, hein, nous disant que c'est bien, quand même. Donc ça, c'est valorisant. Et c'est vraiment quelque chose qu'on ramène dans nos équipes parce qu'il est super important de dire aux gens ce que vous faites, c'est bien.
Oui, le SAMU est parfois faillible. Pourtant, au quotidien, il sauve des milliers de vies. Docteur Vodica.
Le permanencier au téléphone me dit « Je te passe un appel, la voix est bizarre. » Je ne comprends rien, la voix est bizarre. Ah bon. Alors, il me passe l'appel et très vite, je réalise que c'est une voix d'enfant. Alors, je lui dis « Mais quel âge tu as ?» Alors, sur l'écran, j'avais l'adresse exacte et tout parce qu'on a un système informatique qui permet de géolocaliser l'appel. Et elle me dit « J'ai 5 ans. » Ah bon? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Alors on se méfie beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui s'amusent à faire le 15. Ça, coucou. Alors là, coucou. Alors je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, papa est par terre. Ah bon? Il est par terre comment? Ben, il est par terre. Alors je lui dis, toute seule? Oui, maman travaille. Alors donc c'était peut-être 23 heures et j'ai compris que la maman travaillait de nuit. Et je lui dis, t'habites une maison ou un appartement? Je ne sais pas. Ah, je lui dis, il y a quelqu'un à côté de toi? Oui, il y a un monsieur et une dame. Eh bien, je lui dis, va les chercher. Alors, il se passe peut-être une ou deux minutes, et j'entends un hurlement. Le monsieur prend l'appareil et dit, mais vite, 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 venez, il baigne dans son sang. Et la gamine était là, elle dit, papa est par terre. Hein? Alors, on a envoyé le SAMU, il faisait une hémorragie digestive. Et, bon, c'était pas dramatique, mais enfin,
quand même,
c'était sidérant, c'était que la petite était... Ça, je dis souvent aux gens, il faut absolument apprendre aux enfants, ou vos petits-enfants, à composer le 15. Même s'ils appellent ça pour s'amuser, c'est pas grave, ça peut sauver une vie. Et moi, ça a été la première réaction que j'ai eue après. J'ai pris ma petite fille, et puis j'aurais dit, bon, allez, vous composez le 15. Et...
Numéro de secours pour des millions d'entre nous, le SAMU de Toulouse, qui est aussi centre de consultation maritime pour tous les bateaux français naviguant de par le monde, est aussi le point d'ancrage pour ces milliers de marins. Tout un volet qui nécessiterait une autre émission, axée notamment sur cette télémédecine dont nous parlait le docteur Vodica.